Bonjour à tout le monde, ou rebonjour pour ce que je pense être la dernière table ronde, en tout cas, de la journée. Et bravo aux courageux qui sont encore là. Donc, le sujet de la table ronde, de cette table ronde finale, c'est la machine à explorer le temps, en avant ou en arrière. Nous accueillons. Alors, c'est intéressant en fait comme sujet parce que c'est la machine à explorer le temps, c'est quand même une des premières machines de la science-fiction. Mais bon. Donc, nous accueillons Éric Pichol, hein, que vous avez, je pense, déjà abondamment entendu, soit en tant que modérateur, soit en tant qu'intervenant, donc physicien, philosophe, écrivain, tout un tas de casquettes. Ensuite, Ménéas Marfil, que je vais malheureusement laisser se présenter. Allez-y. Oui, je vous en prie.
Oui, ben pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur principalement jeunesse, on va dire, a priori plus dans le fantastique que dans la SF pure. Mais bon, j'ai aussi écrit des histoires d'un petit personnage qui est un voyageur dans le temps, qui voyage spatio-temporellement. On va sans doute en parler parce que, précisément, le mien ne voyage pas avec une machine.
Très bien. Donc, Michel Laframboise, auteur de science-fiction québécoise.
Ontarienne, voilà. Maintenant. Je vis dans la province anglophone de l'Ontario depuis 13 ans. Donc, je me considère comme la seule représentante franco-ontarienne présente à ce festival.
D'accord, merci pour ce détail. Et Raphaël Granier de Cassagnac, donc qui est aussi physicien et auteur de science-fiction. Et moi, donc, Sylvie Alouche, philosophe. Alors, en fait, je vais commencer par la même question que, finalement, j'ai posée à toutes les tables rondes, qui me semble une bonne entrée en matière. C'est parmi, en tout cas, les auteurs, mais en fait, là, tous les quatre, vous êtes auteurs de science-fiction. C'est bon, tout le monde a son micro.
Oui.
C'est la décadence, là, c'est la dernière table ronde, rien n'est au point. Donc, est-ce que vous avez des... Alors, comme je le disais pour commencer, hein, on peut considérer que la machine à explorer le temps, donc, de Wells, est d'instinct, je dirais, peut-être une des premières machines de la science-fiction. Mais donc, est-ce que vous avez dans vos œuvres des machines à explorer le temps ou, comme le suggérait Ménéas Marfil, des voyageurs temporels qui peut-être n'utilisent pas de machines? Voilà, qui... Raphaël?
Alors, moi, j'en ai pas. Sa réponse est assez rapide. J'en ai pas. Le seul traitement temporel que j'ai donné à des machines, mais c'est pas un voyage. Enfin, c'est pas vraiment un voyage à explorer le temps. C'est que dans mes romans, il y a des intelligences artificielles. Et je joue pas mal avec l'idée qu'on peut les cadencer à la vitesse qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut les amener à penser à notre vitesse à nous. Donc là, on interagit avec des gens qui sont dans la même temporalité que nous. Mais on peut aussi les accélérer pour qu'elles pensent plus vite que nous, qu'elles résolvent des problèmes plus compliqués que ceux qu'on peut résolver nous. Donc, enfin, résoudre nous, là, c'est vraiment la fin, là. Et donc, dans une certaine mesure, elles explorent une temporalité différente, mais je pense que c'est en général pas ce qu'on entend dans le sens premier de la machine à voyager dans le temps.
Mais c'est pas la machine à voyager dans le temps, c'est la machine à explorer le temps.
Donc, ça marche. Alors, donc les machines explorent un temps plus rapide que le nôtre.
Ouais.
Et après, moi, j'ai pas trop envie de mettre de machine à explorer le temps dans mes romans, parce que je sais que physiquement, c'est pas trop possible. Donc.
Ça, c'est une remarque intéressante. Alors, je rebondis très brièvement. Moi, j'aime beaucoup les histoires de voyage dans le temps. Le problème des histoires de voyage dans le temps, c'est qu'il y en a déjà eu beaucoup. Et à mon sens, une des difficultés, c'est de réussir à renouveler, parce que c'est quand même une des missions des œuvres de science-fiction. C'est pas de toujours raconter la même histoire, mais même si on a le même artefact, d'essayer d'apporter un angle nouveau. Et j'aurai peut-être l'occasion, au cours de notre discussion, de mentionner deux œuvres relativement récentes qui m'ont offert le plaisir d'envisager la problématique du voyage dans le temps d'une façon qui m'a paru renouvelée et original. Alors, cela dit, je pense que c'est intéressant, je ne sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, de garder ce terme d'exploration qui est un petit peu plus large. Enfin, moi, j'aurais tendance à considérer que la machine a, du coup, à voyager dans le temps, qui est le thème qui vient immédiatement à l'esprit, et est une partie sans doute essentielle de notre thématique, mais qu'il ne faut pas du coup exclure d'autres machines qui exploreraient le temps autrement que sous la forme du voyage.
Oui. J'allais rebondir là-dessus moi-même. J'ai une formation scientifique de géographe d'abord et d'ingénieur, et en géographie, j'ai fait de l'exploration temporelle en analysant des grains de pollen conservés dans les tourbières pendant des milliers d'années et l'analyse de la proportion des grains qu'on peut identifier comme des empreintes digitales d'arbres et d'herbes et de buissons avec leurs caractéristiques nous permet de reconstituer des paysages végétaux du passé, donc des environnements passés. Dans le cas au Canada, au Québec, c'est jusqu'il y a 8 à 10 000 ans parce qu'on avait eu une glaciation. Mais dans le cas en Europe, on peut reconstituer jusqu'à 80, 100 000 années pour ce qui est du pollen accumulé au fond de certains lacs. Alors ça, c'est une machine à explorer le temps que j'aime bien, donc le microscope et les petits grains de pollen. Il y en a d'autres. La seule que j'utilise dans les nuages de phénix, c'est simplement qu'il y a des ruines. Et que ces ruines, donc, permettent de reconstituer, voir qu'est-ce qu'il y avait un peu avant.
D'accord, merci. Nos deux autres auteurs, est-ce que vous... Voilà, enfin, sur... qu'est-ce que vous...
Bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets. J'ai un peu les mêmes préventions que Raphaël sur les machines à voyager dans le temps. Donc, il a pu m'arriver de commettre des uchronies ou de jouer à remettre en musique le paradoxe de Langevin, c'est-à-dire de jouer effectivement avec le temps, mais pas sous la forme de voyage dans le temps et a fortiori pas de voyage dans le passé.
Alors, vous nous avez donné un petit avant-goût de votre voyageur temporel, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez donner davantage de détails?
Oui, d'autant que c'est bien d'avoir fait la distinction entre le voyage qui serait simple et l'exploration, parce que précisément, moi, j'ai pris le parti comme ça de faire voyager mes héros dans des périodes historiques à la fois précise et relativement. Je vais donner un exemple. Par exemple, mon voyageur va se retrouver à un moment prisonnier d'une croisade des enfants. C'est une manière de réexplorer le passé sur des thèmes, par exemple, là où les historiens ne sont pas d'accord. Cette croisade a-t-elle existé, pas existé? Bon, moi, je me sers de ça, de cette recherche précisément, pour voir si, dans les éclairages d'aujourd'hui, on peut mieux comprendre ces éclairages du passé, ou plutôt ces parties voilées et un peu obscures du passé. Donc c'est vrai que mes héros agissent toujours en explorateur, d'autant plus que je me suis interdit dès le début de leur donner la possibilité de voyager à coup sûr. Mais mon jeune héros ne sait jamais dans quelle époque il va tomber, ni à quel endroit en particulier, et ni quel âge il aura à ce moment-là.
Et il va toujours dans le passé ? Par curiosité?
Eh bien, justement, pour le moment, je me suis autorisé que le passé en essayant d'imaginer que le futur était quelque chose de suffisamment terrible pour que se dire je vais y aller, il faut y être préparé, quoi. Mais bon, après, je parlerai sous le contrôle de physicien. C'est qu'au fur et à mesure qu'on écrit comme ça des histoires de voyage dans le temps, de déplacement dans le temps, on est confronté à cette notion même de temps qui a sérieusement évolué. La prenez en préparant cette table ronde, par exemple, que Wells, quand il écrit La machine à explorer le temps, il en a fait, je crois, 12 ou 14 versions. À tel point qu'à un moment même, il va racheter lui-même les livres qui sont sur le marché parce que ça ne le satisfaisait pas. Ce qui ne le satisfaisait pas à l'intérieur, c'est cette notion même du temps qui évolue. Il faut se replacer à l'époque, on est dans les années 20, voilà, Einstein débarque avec sa relativité, on commence à avoir une autre conception à ce moment-là. Effectivement, cette notion même du temps n'a jamais cessé d'évoluer. Je reconnais que nous-mêmes, quand on veut faire une fiction autour de ça, Ben, on est piégé parce que cette notion de temps, elle est encore rediscutée aujourd'hui. Il y a encore quelques années, on nous disait que le temps n'est pas réversible. Sous-entendu, on ne pourrait aller que dans le futur, mais on ne peut pas remonter, il y a l'irréversibilité. Et aujourd'hui, j'entends des physiciens qui nous disent « mais non, parce que de toute façon, les équations, elles, étant réversibles, il n'y a pas de problème théorique à ce qu'on puisse aussi aller dans le passé. » Alors, pour le moment, c'est là que je vais.
Alors, je crois que Raphaël, oui...
14 versions du même roman, il avait surtout le temps, quoi, pour...
Pardon. Oui, il l'a fait sur pas mal d'années non plus, oui.
Alors, oui, vous voulez...
Oui, ben, une remarque qui n'est pas une remarque physique, mais une remarque de lectorat. Premièrement, il faut que vous sachiez une chose. Moi, je hais le voyage dans le temps. J'exècre le voyage dans le temps. Je n'aime pas le voyage dans le temps. Je hais, j'exècre. Mais en tant que... Je comprends la nécessité de certains auteurs, en tant que... Pour faire voyager un jeune dans une période historique, parfois, c'est... Ça, c'est un reproche que j'ai fait à deux auteurs de l'Ontario francophone qui ont sorti un roman qui se passait au début du 19e siècle. Et c'était sur le règlement, enfin, une loi qui a été adoptée. Et le jeune héros de 14-15 ans, je pensais, moi, que c'était un garçon. Ils ont pris un narrateur de l'époque. Non, ils ont pris un garçon du 21e siècle qui est magiquement transporté au début du 20e siècle. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que le lecteur se sentirait comme plus proche du héros. Parce qu'il y a la culture qui change beaucoup. Et des fois, prendre quelqu'un de cette époque-là, avec tous les préjugés de l'époque, ça peut sembler bizarre pour un lecteur d'aujourd'hui. Ou alors, il faut prendre comme un personnage, mais qui a vraiment... qui a su s'élever au-dessus des préjugés de l'époque. Ça peut arriver, ça fait des très beaux personnages, mais c'est un défi. Alors moi, je vois une utilité de l'instrument littéraire du voyage dans le temps pour ça, mais je ne l'utilise pas.
Oui. Non, t'avais... D'accord. Alors, je trouve que c'est très intéressant que vous ayez... cette réaction quand vous dites j'exècre le voyage dans le temps, etc. Parce que c'est vrai que j'ai effectivement pour ma part plusieurs amis scientifiques et notamment physiciens. Alors vous n'étiez pas aussi passionné dans votre dans le côté, mais il y a une espèce de pour certaines personnes assez bizarrement, alors que ça paraît un sujet assez neutre, le voyage dans le temps suscite chez certaines personnes effectivement une réaction assez assez violente, comme étant quelque chose c'est vraiment pas possible, donc c'est juste illisible. Parce que moi, j'ai un ami qui est physicien qui dit juste « mais je ne peux pas lire des histoires de voyage dans le temps parce qu'en fait, je n'y crois pas ». Donc, il y a une vertu qu'on attache et qui est une expression qui vient de Samuel Coleridge pour décrire l'effet de la science-fiction qui s'appelle donc en anglais « the suspension of disbelief », donc la suspension d'incrédulité. Et c'est un élément de compréhension de l'effet de la science-fiction qui est très important. Et apparemment, chez certaines personnes, notamment des physiciens, mais pas nécessairement, ils n'arrivent pas à accrocher aux histoires de voyage dans le temps parce qu'ils n'arrivent pas, dès le début, à y croire. Voilà. Alors, peut-être pas nécessairement en produisant ce genre d'effet. Alors donc j'aimerais savoir Eric et Raphaël, donc qui êtes tous les deux physiciens et vous avez tous les deux dit ah non mais moi j'y touche pas. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est juste que c'est pas possible? Est-ce que même si vous voulez pas en écrire, il y a quand même des histoires de voyage dans le temps que vous appréciez?
Moi j'ai pas de haine particulière pour les histoires de voyage dans le temps. Essentiellement parce qu'on a pu définir la science comme l'art des questions qui ont des réponses. On peut remonter à Descartes qui a soigneusement distingué une méthode scientifique de l'ancienne scolastique et des anciens discours. Essentiellement, ce qu'il a fait, c'est considérer que tous les problèmes relativement simples, en tout cas ceux auxquels ce qu'on appelle maintenant la méthode scientifique permet de donner des réponses claires, c'était de la science, et que tout le reste, tout ce qui était de la religion, tout ce qui était de la métaphysique, c'était l'affaire des philosophes, c'était l'affaire des théologiens, et surtout pas des scientifiques. Donc les grandes questions comme qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, sont de toute façon des questions qui ne se posent pas en physique, auxquelles on n'a pas de réponse, mais on n'a absolument pas de complexe. Ce n'est pas à nous de répondre à ces questions, c'est au mieux aux philosophes. Et sinon, on s'accommode très très bien de l'absence de définition du temps. Donc je n'ai pas de préjugés particuliers sur le temps. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est discuter des applications. Par exemple, la relativité einsteinienne dont on discutait à l'époque, ce n'est pas une théorie du temps, c'est une théorie de la synchronisation des horloges. Des horloges d'une façon générale de tous les appareils qui ont un fonctionnement qui peut être régulier et gouverné par le temps. Et là, effectivement, si on fait n'importe quoi du point de vue de la synchronisation des horloges, et synchroniser des horloges, une horloge, ça peut être simplement notre cœur. Donc ça peut être voir comment deux personnes vieillissent l'une par rapport à l'autre, ça peut être enfin, tous les phénomènes qui dépendent du temps, c'est-à-dire tous les phénomènes qui intéressent seul humain, parce que notre vie est évidemment baignée dans le temps en permanence, ont des conséquences temporelle que la physique sait assez bien décrire, et on est capable assez facilement de dire que tel ou tel phénomène aboutirait à des paradoxes, serait aberrant. Donc on voit les problèmes de telle ou telle mise en pratique d'un voyage dans le temps, on voit assez facilement sur quel paradoxe on pourrait tomber, et on évite de se prendre les pieds dedans, mais c'est pas un préjugé à l'égard du temps à proprement parler, en tout cas en ce qui me concerne.
Non, moi, peut-être pour rigoler, je veux dire, j'adore le voyage dans le temps. Moi, je kiffe ça. C'est mon. Donc, même si j'en ai pas fait, moi, j'aime beaucoup, en fait, en lire chez les autres. Et quelle que soit la forme de voyage dans le temps, parce que, bon, tu l'as déjà un petit peu évoqué, il y a en gros trois types de voyage dans le temps. Il y a le voyage dans le temps qui est possible avec la relativité einsteinienne. C'est simplement qu'un voyageur qui voyage vite, le temps passe moins vite pour lui. Donc, quand il retrouve, il a moins vieilli que les autres. Donc, ça, c'est un scénario qui est. Bon, pour l'instant, on ne voyage pas proche de la vitesse de la lumière, mais c'est crédible scientifiquement. C'est-à-dire que c'est un fond scientifique, et donc explorer les conséquences d'un tel voyage dans le temps, c'est, même scientifiquement, c'est intéressant, quoi. Après, il y a le voyage dans le temps dans le futur, qui est un artifice narratif qui est intéressant pour envoyer nous. Enfin, ce qu'on fait beaucoup en science-fiction, on imagine le futur, mais pourquoi pas carrément scénariser le truc où on est dans le futur, où on envoie quelqu'un dans le futur comme témoin, grand témoin, de l'hypothèse science-fictionnelle qui est mise en œuvre. Alors le truc que moi je préfère, c'est le voyage dans le passé. C'est évidemment celui qui est le moins possible scientifiquement, avec tous les problèmes de causalité. Si vous tuez votre grand-père avant qu'il ait enfanté votre père dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Des choses comme ça, avec toutes les possibilités d'univers parallèle, des choses comme ça. Moi j'adore ça. Moi. Alors j'adore ça quand c'est bien traité, ce qui n'est pas facile du tout en fait. Dès qu'il y a des histoires de paradoxes temporels... C'est effroyablement complexe. Puis on peut citer pas mal d'exemples. Le manufacture de l'affiche de l'idée d'Utopial aujourd'hui, Bajram, dans son cycle Universal War One, a fait pour moi un exercice sur le voyage dans le temps qui est remarquable, quoi, par exemple. Donc, un très bon scénario de voyage dans le temps. Moi, j'aime bien.
Michel.
Là, j'ai juste une petite remarque. Quand j'ai dit que j'aime pas, c'est que moi, j'en écris pas. Mais par contre, j'en ai lu, en passant, la distorsion temporelle du voyage, c'est présent dans mon space opéra, à un moment donné. Mais c'est parce que, ouais, le voyage vers le passé, là, un peu comme le Doctor Who, des fois, qui se déplace, youpi, un peu partout. C'est parce que nous, on est pourtant des fans du Doctor Who. Fait que j'en écoute, j'en lis, mais ça dépend. Quand c'est bien fait ou quand vraiment... par exemple, dans Hyperion de Dan Simmons, il y a des aspects de voyage dans le temps qui étaient assez explorés de façon originale. Les effets de distorsion, j'ai oublié l'autre sujet que je voulais, mais c'est que en passant, un gros best-seller littéraire de Diana Gabaldon, La Croix et le Chardon, c'est complètement, ça repose sur un voyage dans le temps qui n'est pas expliqué, c'est mystique. Là, tu te promènes, puis pouf, tu arrives deux siècles plus tôt. Et disons que quand on passe par-dessus ça, disons que l'histoire, la période historique, un coup qu'on est dans l'historique, là, ça devient, c'est intéressant, mais moi, je préfère les romans historiques tout court. Des fois, quand l'artifice, il est trop... l'artifice est parfois trop léger ou un prétexte, bien, là, c'est moins intéressant. Bien, par contre, il y a énormément de choses à explorer sur la distorsion temporelle, le voyage qui est plus lent, le temps plus lent pour nous et plus rapide pour les autres. Ça, c'est intéressant. La personne qui se fait congeler puis qui se réveille trois siècles plus tard, pas congelée vraiment, là, on s'entend, qui se fait conserver puis deux siècles plus tard arrive, bien, là, ça a été très, très exploité aussi.
Alors, en fait, on a abordé, mais peut-être qu'on pourrait le faire... brièvement, de façon un peu plus systématique, les différents types de machines à explorer le temps. Alors, un premier type intéressant que vous avez mentionné, je dirais, c'est le roman historique. On pourrait dire, d'une certaine façon, le roman historique est une oui. machine à explorer le temps. Alors après, donc, il y a aussi alors, la machine classique à la Wells, hein, qui nous transporte dans le futur, comme chez Wells, ou dans le passé. Et puis, il y a... Alors peut-être, voilà, je pense que... Bon, pour moi, c'était clair, et sans doute pour la plupart d'entre vous, mais quand vous avez parlé du paradoxe de Langevin, etc., de l'utilisation des effets de la relativité d'Einstein, peut-être que l'un parmi vous pourrait préciser... Je crois que c'est aussi ce que vous désignez comme distorsion temporelle. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par ce type de voyage dans le temps, un petit peu particulier quand même.
Est-ce que je pourrais te dire l'équation, mais ça va être compliqué. Mais disons qu'il y a une constante. Moi, j'y crois plus ou moins. Ça, j'ai de la difficulté. Mais la vitesse de la lumière est une constante partout. Et là, Eric va continuer.
Oui, essentiellement. La notion de base de la relativité, c'est la notion de référentiel. C'est-à-dire que c'est vrai dans la relativité classique de Galilée comme de la relativité einsteinienne. Le principe de relativité, dans sa formulation la plus générale, c'est que tous les points de vue sont également légitimes, que la physique est la même dans tous les référentiels. Ça veut dire que une personne aura toujours son temps propre. Son temps propre, c'est peut être mesuré de différentes façons. Ça peut être mesuré en particulier par rapport à son temps biologique, à son vieillissement. Bon, vous avez votre montre, vous voyez le temps passer, vous sentez votre temps battre, vous voyez vieillir si vous prenez des temps un peu plus longs. Et il n'y a pas tellement de mystère là-dessus. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Les physiciens ne sauraient pas expliquer ce qui se passe quand on vieillit. Là, pour le coup, ce n'est pas aux métaphysiciens qu'on le renvoie, c'est aux biologistes. Mais on est tous à peu près d'accord, on comprend tous à peu près la même chose quand on dit que 5 minutes sont passées ou que 5 ans sont passés. On a la même expérience. Quand on confronte cette expérience avec celle des autres, on n'obtient pas forcément le même résultat. Il y a des déviations subjectives. On sait bien que quand on passe 5 minutes de plaisir, on passe beaucoup plus vite que 5 minutes d'ennui. Ça, c'est purement psychologique et subjectif. Il n'y a pas de différence physiologique. En revanche, quand on sépare les gens dans le temps ou dans l'espace, quand on prend des observateurs qui sont très distants l'un de l'autre ou qui vont à des vitesses complètement différentes l'un par rapport à l'autre, il devient très difficile de comparer les temps, ne serait-ce que parce que si quelqu'un passe avec une fusée à quelques 10 000 km/h par rapport à vous, vous n'avez pas le temps de l'arrêter pour lui dire quelle heure est-il à la montre pour comparer. Et donc il a fallu une théorie extrêmement sophistiquée pour arriver à comparer, à savoir comment comparer les montres de voyageurs qui vont à des vitesses complètement différentes. C'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Et la réponse théorique d'Einstein, qui a été vérifiée depuis dans tous les types de vérifications qu'on a pu faire, donc Raphaël travaille sur des particules élémentaires qu'on arrive à amener à des vitesses très proches de celle de la vitesse de lumière, et la théorie de la relativité restreinte marche encore très très bien. Donc c'est pas une vérité absolue, mais c'est quelque chose qui a résisté à tous les tests qu'on a été capable de lui faire passer. Et ce que nous dit cette théorie, c'est que le temps le plus long, c'est toujours celui de l'observateur. Dans votre propre référentiel, le temps passe plus lentement que pour n'importe quel autre. Si quelqu'un passe en fusée à côté de vous à une très très grande vitesse, il va vieillir moins vite que vous. Ça veut dire que pour un observateur qui reste sur la Terre, si le paradoxe des jumeaux de Langevin, bon, qui n'a pas été proposé par Langevin lui-même sous cette forme, mais qui est très très parlant, prenez deux jumeaux, donc par définition des jumeaux, c'est dont on a l'habitude de dire, ce sont deux personnes qui ont exactement le même âge, qui se ressemblent. Vous en prenez un que vous mettez dans une fusée et que vous faites partir à des vitesses relativistes, c'est-à-dire à des vitesses comparables à la vitesse de la lumière. On parle de centaines de milliers de kilomètres par seconde. C'est évidemment des vitesses qu'on ne sait pas produire dans les fusées actuelles. Pour vous, pour celui qui reste sur Terre, celui qui est parti vieillira moins vite. Et s'il fait demi-tour et qu'il revient, si le coefficient correctif est d'un facteur 10, et ça correspond à des vitesses qui ne sont pas encore très très proches de la vitesse de la lumière, pendant que le terrien aura vécu 10 ans pendant l'aller, 10 ans pendant le retour, donc s'ils avaient 20 ans tous les deux au départ, celui qui est resté sur Terre aura 40 ans. Alors que celui qui est parti dans la fusée aura 22 ans, parce qu'il n'aura vieilli que de 2 ans. Ça, c'est pas véritablement le paradoxe. Le paradoxe des jumeaux d'Angevin est double. Ça, c'est le paradoxe, en quelque sorte, de premier degré. C'est le paradoxe intuitif. C'est pas tellement conforme à notre intuition que le temps ne se déroule pas de la même façon, ne batte pas de la même façon dans deux fusées. Le véritable paradoxe de l'Angevin, c'est que c'est de la relativité. Je vous ai dit que le principe de relativité, c'était que la physique était la même dans tous les référentiels. Donc, le référentiel de la fusée est tout aussi légitime pour avoir cette discussion. Et donc, si on prend non plus l'observateur qui est resté sur Terre, mais l'observateur qui est dans la fusée, du point de vue de celui qui est dans la fusée, lui est immobile. Il est dans sa fusée, il a le temps qui passe normalement, il a son cœur qui bat, donc il mesure le temps qui passe. Il va effectivement passer un an à l'aller, un an au retour. Mais je vous disais tout à l'heure que le temps battait moins vite pour ceux qui étaient en mouvement. Or, lui, dans sa fusée, est immobile. Du point de vue de la fusée, c'est la Terre qui s'en va. C'est la Terre qui s'éloigne à très très grande vitesse et c'est la Terre qui revient quand il a fait demi-tour. Et le paradoxe, c'est que si vous considérez qu'il y a un facteur 10 entre les deux, compte tenu de la vitesse très 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 grande, soit de la Terre, soit de la fusée, selon le référentiel considéré, bah pendant que dans le référentiel de la fusée, celui qui a vieilli de 1 an a vieilli 10 fois plus que son collègue resté sur Terre, donc 1 an c'est 52 semaines, donc celui qui est resté sur Terre a vieilli 5 semaines pendant l'aller, 5 semaines pendant le retour. Au total, quand ils se rejoignent, celui qui est allé dans la fusée devrait avoir 22 ans. Ça, c'est un calcul qu'on a fait tout à l'heure, c'est toujours le même. Mais son camarade ou son jumeau resté sur Terre, lui, devrait avoir 20 ans plus 10 semaines. C'est-à-dire toujours 20 ans, quelques mois près. Et le véritable paradoxe et la véritable difficulté de ce problème-là, c'est bien sûr, les deux peuvent pas être vrais en même temps, puisque quand ils se rejoignent, on voit bien si l'un a 40 ans, enfin, celui qui devait avoir 22 ans, à 22 ans dans tous les modes de calcul, donc on est à peu près convaincu que c'est bien 22 ans, mais celui qui est resté sur Terre a 40 ans ou a 20 ans et 3 mois, mais ne peut pas avoir les deux à la fois. Et ça a été une discussion extrêmement sévère, et il y a eu un travail énorme d'Albert Einstein lui-même qui a résolu ce paradoxe. En fait, on s'aperçoit que cette théorie de la relativité qu'on appelle restreinte n'est pas valable pendant les demi-tours, n'est pas valable en particulier non plus quand on a des forts champs gravitationnels, mais dès qu'on a des accélérations, en particulier dès qu'on fait un demi-tour. Or, le scénario que je vous ai décrit est celui d'un aller et d'un retour, donc il a bien fallu qu'à un moment ou un autre, on ait un demi-tour. Et Albert Einstein était obligé de produire une seconde théorie, qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui décrit ce qui se passe pendant les demi-tours, quand on a des accélérations, quand un observateur est soumis à des forces violente. Et en fait, il a été obligé de démontrer, d'introduire l'hypothèse que, en fait, une personne distante vieillissait d'autant plus vite qu'il était plus loin quand l'observateur était soumis à des forts champs. Et donc, en l'occurrence, le calcul est relativement simple, sans rentrer dans la relativité générale. Bah, évidemment, les 20 ans moins 3 mois qui manquent, c'est ce qui s'est passé pendant le demi-tour. Et pendant le demi-tour, dans le référentiel de la fusée, le jumeau resté sur Terre a vieilli quasiment de 20 ans, en quelques jours. Bon, difficile de rentrer beaucoup plus dans les détails.
Oui, mais non, mais c'était
déjà
ouais.
Parfait.
Très bien. Alors voilà, donc il y a le... Alors c'est vrai que là, Eric a pu... Alors évidemment, Eric a pu décrire de façon assez détaillée la façon dont on pourrait voyager ou explorer le temps en utilisant ces effets relativistes. Alors bien sûr, disons, c'est quand même fondé sur l'hypothèse que on pourrait avoir des vaisseaux qui puissent aller à ce type de vitesse avec à l'intérieur, puisqu'en général on suppose qu'il va y avoir un être humain dedans, avec des êtres humains qui arrivent à survivre dans ce vaisseau qui irait à de telles vitesses. Et pour l'instant c'est pas du tout possible, et je pense pas qu'on ait le début de l'ombre d'une idée d'une façon que ça pourrait être rendu possible.
À l'échelle humaine, non, mais je voudrais insister qu'à l'échelle microscopique, c'est totalement vérifié ce scénario-là, y compris avec des objets relativement macroscopiques. On embarque une horloge atomique dans un avion standard, on lui fait faire 2-3 fois le tour de la Terre, et on arrive à mesurer la différence, qui est toute petite en temps, hein, entre sa sœur qui est restée sur la Terre. Alors pour les particules élémentaires avec lesquelles je travaille, c'est 1000 fois pire. Elles vivent, on peut les mettre dans des états où elles vivent 100 fois plus que normalement. Juste une parenthèse pour... Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas demain qu'on expérimentera ces choses-là à l'échelle humaine.
Voilà. Mais ça reste effectivement, bah, comme tu viens de le dire, quelque chose qu'on peut envisager comme une possibilité technique un jour avec des moyens bon, qu'on n'envisage pas pour l'instant. Alors que la machine à explorer le temps, disons celle qui vient immédiatement à l'esprit et qui a cette vertu de nous faire... Alors, disons, ce qui paraît le plus problématique, c'est d'aller dans le passé. Là, est-ce que... j'ai l'impression que ça paraît d'autant plus difficile à imaginer que ça pose des paradoxes, comme tu le suggérais, de causalité, qui font qu'on peut se dire que peut-être que ce ne sera jamais possible. Mais est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui pourrait nous donner un début d'idée, Michel?
À part le télescope et à regarder les lumières d'étoiles qui sont mortes depuis longtemps... ça, c'est un moyen de voir du passé. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Mais sinon, il y a le plaisir de graviter près d'un trou noir. Alors, près de la singularité, l'horizon événementiel, ça a l'air que le temps commence à ralentir pour vous. Alors, j'avais une nouvelle que j'avais commencée sur ce thème-là, avec plein de débris qu'on voyait toujours sur le bord du trou noir pour les observateurs de l'extérieur, mais qui sont en fait qui sont probablement évidemment écrasés depuis longtemps à la surface du corps pour la singularité.
Alors oui, alors effectivement, mais donc je vois que les deux physiciens n'interviennent pas. Mais il y a des.
Oui, hein.
Alors pour autant que je sache, il y a des. Alors sans rentrer trop dans les détails, mais effectivement, il y a des théories, mais peut-être particulièrement spéculatives autour des trous noirs d'un côté et de la physique quantique de l'autre, qui donnent, enfin, que disons au moins certains auteurs de science-fiction utilisent pour imaginer des processus de voyage dans le passé qui pourrait avoir le début d'une ombre d'un effet de vraisemblance. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, j'arrête de lire très vite quand on va dans ces directions-là, donc je ne suis pas du tout spécialiste. Il y a toujours la solution que plusieurs scientifiques utilisent qui est simple, c'est de dédoubler les univers, ça c'est assez pratique. C'est-à-dire que s'il y a un problème de causalité, ben, c'est pas grave, se crée instantanément un deuxième univers dans lequel le truc n'a pas eu lieu, ou des choses comme ça. C'est une solution de facilité, mais qui peut être assez riche pour la science-fiction dès lors qu'on imagine un moyen pour que ces univers communiquent, qu'ils aient quelque chose à échanger. S'ils se séparent juste deux univers, et puis voilà, donc on écrit deux bouquins séparés. Donc voilà. Mais pour moi, c'est pas très très intéressant. Moi, le voyage dans le temps, dans le passé, je préfère vraiment comme on disait tout à l'heure, quoi, l'appréhender sur le plan vraiment de la littérature. C'est super intéressant en termes de littérature. Il y a plein de scénarios, de choses rigolotes à imaginer, de paradoxes.
Je veux dire que ça vaut pas le coup finalement de trop s'apesantir sur la méthode qu'on va utiliser. C'est même pas la peine de se donner, parce que c'est quand même normalement une des spécificités de la science-fiction, d'essayer de se donner un début de vraisemblance. Là, tu penses que ça vaut pas le coup. On accepte la machine et après on imagine des bons scénarios.
Je vais te donner un exemple. Le voyage dans le temps vers le passé, c'est quand même. Non, c'est d'ailleurs dans le futur dans le cas que je vais donner, mais le voyage dans le temps, dans le passé ou dans le futur, c'est quand même tellement sexy que c'est un des rares thèmes de science-fiction qui est arrivé. Qui est arrivé en prime time, enfin, qui est arrivé dans les salles de cinéma françaises qui font des best-sellers, quoi. Les Visiteurs. Je veux dire, Le Visiteur, c'est dans une certaine mesure, c'est un film de science-fiction. Alors, on n'a pas envie de le qualifier comme tel, mais c'est un thème de science-fiction qui est tellement sexy, tellement intéressant, qu'il peut se décliner tellement de façons différentes, qu'il en arrive à devenir extrêmement populaire. Et il y en a plein, hein, des exemples. Il y a plein de films. Donc, moi, je n'ai pas besoin de justification scientifique. Et ça me fait même. Ça m'embête même presque quand un auteur commence à s'apesantir sur une pseudo-justification scientifique d'un truc. J'en ai pas besoin. C'est fun, le voyage dans le temps.
Je mentionne très vite Connie Willis, dont certains ouvrages ont été traduits. Je les ai pas lus parce qu'il dit voyage dans le temps. Enfin, bon. Mais ça a l'air que c'est bien traité.
Alors, merci de la remarque, parce que justement, du coup, ça me permet d'aller vers la suite de ce à quoi je pensais. D'une part, ça me permet de rebondir sur une question qu'on peut poser à partir du sujet qui nous a été proposé. C'est finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de machines pour explorer le temps, d'une part, et du coup, est-ce qu'on est nécessairement, mais tu as déjà en partie répondu, est-ce qu'on est nécessairement dans la science-fiction quand on fait de l'exploration temporelle? Et tu as cité l'exemple des Visiteurs, je suis tout à fait d'accord avec toi évidemment. Alors quel est le genre des Visiteurs? Ça c'est encore une autre question. Parce que vu, disons, le contexte médiéval et le type de moyen qui est utilisé, on serait plutôt du côté de la fantasy, en fait. Hein, c'est une espèce de potion magique ou de moyens plutôt de l'ordre de la magie. Donc si on a une interprétation un peu premier degré de la différence entre magie et science-fiction, on va dire bah, ce sera plutôt du côté de la fantasy. Mais est-ce que c'est même vraiment ça? Je pense que ce serait difficile, un peu compliqué. Et il y a aussi dans, peut-être je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans Harry Potter, hein, il y a une des intrigues qui est aussi fondée sur une histoire de possibilité de voyager dans le temps.
Très dangereuse d'ailleurs, si je me souviens bien. Ils prennent des risques, les sorciers qui font ça, je crois. Il y a de bonnes choses qui ne reviennent pas. C'est ça.
Je suis tenté de répondre à tes deux dernières questions en même temps. J'ai essentiellement là encore la même posture que Raphaël. Je suis très vite éjecté par la pseudo-science et les justifications foireuses. Et il y a très très peu d'auteurs qui ont fait un travail sérieux pour nous expliquer comment voyager dans le temps. Donc j'ai aucun problème avec les auteurs qui me demandent de fermer les yeux et de m'imaginer aller dans le temps. Quand on commence à éveiller mon neurone art science ou de physicien, et en tout cas mon sens critique, il ne faut pas me dire absolument n'importe quoi. Cela dit, il y a quelques auteurs, et au moins un qui me vient à l'esprit, qui ont fait ce travail, que Sylvie connaît bien, je crois, qui est Greg Egan, qui est probablement l'archétype de l'auteur de art science fiction qui n'hésite pas à mettre des pages d'équations sur son site web pour expliquer
oui.
les idées derrière
j'ai visité.
Derrière ces romans. Et dont la solution est effectivement de ne pas se doter de machines. Il a conçu un univers entier doté de lois physiques légèrement différentes des nôtres. En l'occurrence, il y a une grandeur dans la relativité restreinte. On parle de On généralise la distance. Vous savez que la distance habituellement d'un point à l'autre, la distance au carré, c'est x2 plus y2 plus z2, où x, y, z sont les trois dimensions d'espace. Pour avoir la même chose en tenant compte du temps, il y a un intervalle spatio-temporel entre deux événements qui est x2 plus y2 plus z2 moins t2, t étant le temps. Et Greg Egan s'amuse à imaginer un univers dans lequel cette grandeur conservée n'est pas x2 plus y2 plus z2 moins t2, mais x2 moins y plus y2 plus z2 plus t2. Donc il change juste le signe d'un des paramètres. Ça change absolument tout. La physique de son univers est complètement différente. Il est obligé, Greg Egan étant Greg Egan, il se donne la peine de réinventer l'univers et de décrire un univers avec ses nouvelles lois physiques. Mais il se trouve que cette inversion d'un signe dans cette équation lui permet effectivement d'avoir un voyage dans le temps et même sans avoir de dédoublement de l'univers, des planètes différentes qui, parce qu'elles sont en mouvement l'une par rapport à l'autre, ont des flèches du temps inversées l'une par rapport à l'autre et donc d'avoir la possibilité de voyage dans le temps. C'est toute la série de Clockwork Rocket. Je ne crois pas qu'elle ait été traduite en français. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait de projet de traduction parce qu'il doit y avoir une demi-douzaine de lecteurs potentiels en France. Mais c'est un travail ahurissant. C'est de la littérature expérimentale. C'est de la science-fiction dans ce cas-là de plus extrême et de plus performatif. Je suis ravi que ça existe. Je me suis beaucoup amusé à le lire. Je veux dire que je n'ai pris absolument aucun plaisir littéraire. C'est purement un jeu intellectuel. Mais ce sont des choses qui existent.
Non, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant avec Greg Egan, c'est que, c'est quelque chose que je dis très souvent. La science-fiction, en réalité, et comme le montre l'intitulé de cette table ronde, c'est finalement pas si souvent que ça de la science-fiction. C'est plus souvent de la technique-fiction. Et Greg Egan est, je pense, quand même un des rares auteurs qui prend au mot la science-fiction et qui fait de la fiction scientifique, c'est-à-dire qui imagine des nouvelles formes de science ou, et là c'est le cas, des nouvelles formes de lois de l'univers qui nous régiraient. Et c'est quelque chose effectivement de très difficile parce que déjà, ça, si on veut le faire, disons, de façon vraisemblable par rapport à l'état de la science contemporaine, c'est quelque chose qui suppose d'être suffisamment calé dans la science telle qu'elle existe pour essayer de spéculer sur des formes alternatives de cette science qui puisse malgré tout faire sens. Et il y a un deuxième défi que tu soulignais dans ta réception, c'est comment de réussir à faire donc de la science-fiction au sens propre de science, tout en maintenant un intérêt littéraire. Et j'ai eu, tout en ayant un lectorat, tout en réussissant à garder son lectorat. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer par mail Greg Egan. Et je me souviens, parmi les choses qui étaient, quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui est important pour vous, il disait effectivement, moi, la plus grande difficulté pour moi, c'est de rester à jour de la science telle qu'elle évolue. Et il y a aussi la question de réussir à produire quelque chose qui soit qui puisse être séduisant pour un lectorat, puisqu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de faire de la science. Hein. Si la science est ennuyeuse ou compliquée pour un scientifique, ce n'est pas le problème. Hein. C'est un rapport à la vérité. Mais la science-fiction, c'est quand même une œuvre de divertissement. Et il faut réussir cette difficile équation de faire de la science-fiction tout en ayant... tout en restant quelque chose de lisible. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre dans un sens négatif. C'est un défi qui est lancé à tout le monde. Et je pense qu'il y a encore dans ce sens énormément d'œuvres sans doute passionnantes à écrire pour avancer dans le terrain de la science-fiction tout en réussissant à rendre cette science-fiction humainement réceptionnable. Bon, là, j'ai beaucoup parlé.
C'est un gros défi. C'est ça, Greg Egan, c'est assez complexe, mais il a quand même écrit des histoires très émouvantes, mais ce n'était pas sur de la haute, ça reposait pas sur de la haute physique, ça reposait sur des modifications génétiques et biologiques. Par contre, juste une petite remarque, dans un de mes space opéra Piège pour le Jules Verne, avant qu'on ait beaucoup d'informations sur les ondes gravitationnelles, j'ai peut-être commis une petite erreur.
C'est mal.
Oh! J'avais à bord de mon vaisseau des détecteurs massiques, parce que je me disais, ben, comme on a de la lumière qui prend un certain temps pour nous arriver... Tu vois un champ d'étoiles devant toi, mais en réalité, c'est peut-être pas ce que tu as devant toi. Alors, j'ai imaginé donc des détecteurs à graviton et qui pouvaient détecter, par exemple, un trou noir, comme une grosse boule très visible ou une étoile, et à l'endroit où ils sont vraiment. Donc, à un moment donné, le Jules Verne, qui est le nom du vaisseau, il fore son tunnel de lumière noire, très amusant, là, avec des particules noires, on s'amusait beaucoup. Et il ressort de l'autre côté, il regarde en arrière, et puis là, ils se voient eux-mêmes en train de fuir la catastrophe. Et c'était juste parce que ça faisait une très belle description. Mais plus tard, j'ai appris, il faut qu'Éric me confirme, que ces ondes gravitationnelles, elles sont elles aussi limitées par la vitesse de la lumière.
Et malheureusement, oui.
Catastrophe!
Alors là, on pourrait dire que ce n'est pas très grave, en fait, puisque rien n'oblige l'auteur de science-fiction à être conforme à la science telle qu'elle existe. C'est vrai que là, on a supposé un peu ça, parce que ça peut faire partie de la contrainte qu'un auteur choisit de s'imposer, d'essayer de respecter au plus près la science contemporaine.
C'est une façon de voir le passé. C'était une tentative.
Mais en réalité, ça n'est pas... Ça n'est pas une obligation canonique et on peut faire de la science-fiction en distordant finalement les lois, telle ou telle loi, ou en inventant du coup une autre forme de nature.
Dans la définition,
ou en faisant du hand-waving.
Oui, ça marche très bien. Ça. Dans la définition que tu donnais de technique fiction et de science-fiction, c'est même obligé quand tu fais de la science-fiction de prendre des libertés par rapport aux lois.
C'est même obligé quand on fait de la science. Fondamentalement, toute réflexion scientifique un peu novatrice part d'une hypothèse plus ou moins farfelue. En tout cas, on sort de ce qui est connu, on s'aventure dans l'inconnu. La véritable différence entre le scientifique et l'écrivain de science-fiction, je crois que c'est Umberto Eco qui présente l'écrivain de science-fiction comme un scientifique imprudent. Un scientifique fait de la spéculation, fait des hypothèses parfois violentes, s'éloigne éventuellement très loin de ce qui est connu, mais dès qu'il peut... Il teste ses hypothèses, il cherche à prouver des résultats, de concrétiser sa pensée. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc on renonce très très vite aux hypothèses qui ne fonctionnent pas. Alors que l'écrivain de science-fiction, lui, peut s'aventurer très très loin des choses. Et puis, On vérifiera un jour peut-être si un physicien a le bon goût de trouver, de confirmer ses spéculations, tant mieux. Et sinon, tant pis, on a passé un bon moment littéraire, mais la vérification n'est pas du tout un problème pour l'écrivain.
Je crois, tout à l'heure, tu as posé une question, je crois qu'on n'a pas répondu en fait. Tu nous as demandé si on pouvait explorer le temps sans. S'il y avait besoin d'une machine vraiment pour explorer le temps, c'est ça? Alors, toi, Ménéas, ton personnage, il n'utilise pas du tout de machine, c'est ça?
Oui, ben, parce que, bon, d'emblée, je ne le place pas non plus sur un plan purement scientifique, c'est-à-dire je n'ai pas à me positionner par rapport aux lois physiques, aux choses comme ça. On essaie toujours de conserver peut-être une cohérence, mais. La question, par exemple, c'est, à supposer qu'on puisse faire une machine à remonter dans le temps, si elle devait être matérielle, d'abord, on ne sort jamais du paradoxe. Si on l'a inventée, pourquoi n'est-elle pas déjà là, quoi ? Quelle que soit l'époque à laquelle on l'a inventée, on devrait l'avoir. Mais est-ce que cette machine pourrait, par exemple, ne pas être le cerveau humain ? C'est-à-dire, quand on se place dans cette hypothèse-là, Le cerveau peut être entendu comme ça en tant que machine, c'est-à-dire un grand conglomérat de neurones avec ses synapses. Et est-ce que juste peut-être par des techniques qui ne nous sont pas connues ou qui seraient peut-être à découvrir, nous permettraient simplement de changer d'état de conscience et dans le sens où il s'agirait également d'un voyage, d'une exploration. Quand j'entends quelqu'un comme Gérard Klein, par exemple, nous dire qu'il serait peut-être temps de nourrir le futur, ce qu'il entend par là, c'est comment est-ce qu'on pourrait commencer aujourd'hui à modifier le futur ? Il le pose comme d'autres physiciens, je pense si vous connaissez Philippe Guillemin, lui dit qu'il faut commencer par poser des intentions, c'est-à-dire que donc, là, on est dans l'imagination pure, c'est nous qui posons une intention. Peut-être, comme on dit, en espérant que ce sera autoréalisateur, comme une prophétie autoréalisatrice. Mais poser une intention comme ça, c'est reconnaître que nous sommes sur des chemins temporels. Nous avons chacun des lignes temporelles. Et en quelque sorte, le futur serait déjà écrit. Comment y accéder ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, on pourra peut-être un jour... De la même manière qu'on entre dans des états de conscience différents, ce que nous appelons là le réel, est-ce que c'est vraiment très différent du monde dans lequel nous vivons quand nous sommes en rêve, par exemple, ou dans un état de conscience qui serait dû à un produit chimique ou une drogue, comme dans le chamanisme, etc. Et là, je pense qu'on a des possibilités, non pas d'exploiter un espace-temps qui serait uniquement linéaire, mais dans l'optique plutôt de la physique quantique qui parle d'univers imbriqués plutôt les uns à l'intérieur des autres, je pense que là, oui, le cerveau pourrait être cette machine à voyager, à explorer.
Alors, merci. Enfin, c'est très intéressant. Moi, j'avais une façon aussi, disons... Alors, il y a une façon non machinique d'explorer le temps, si je ne suis pas trompée par ma mémoire. Il y a dans un comics américain qui s'appelle The Invisibles, où il y a une façon d'explorer le temps et notamment d'aller dans le passé par projection astrale. Et on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà, donc il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Mais alors après, et ce sera pour finir, et je pense qu'après on pourra donner la parole un petit peu au public, je partirai de mon expérience personnelle. Parce que là, on a interprété la machine à explorer le temps en réalité plutôt comme la machine à explorer des moments temporels. Mais si on veut... explorer le temps en tant que temps. Quand j'ai lu Saint-Augustin, qui a une théorie célèbre du temps, parmi d'autres théories du temps de philosophes, ça m'a rappelé en fait une histoire que j'avais lue dans les histoires de voyage dans le temps de la grande anthologie de la science-fiction française. Donc la grande anthologie de la science-fiction française, c'est une série de livres, de recueils de nouvelles thématiques. Donc il y a les histoires de mutants, les histoires d'extraterrestres, etc. Et il y a notamment les histoires de voyage dans le temps. Et alors ce qui était intéressant dans ce recueil de nouvelles, mais bon, vous pouvez le faire si vous avez en tête plusieurs histoires de voyage dans le temps, c'est qu'elles explorent chacune, en réalité, une compréhension philosophique du temps distincte des autres. Et donc, quand je lisais Saint-Augustin, je m'étais dit « Ah, mais ça ressemble à telle histoire ». Donc, une autre façon de dire que le cerveau est une machine à explorer le temps, mais alors pas les moments temporels, comme on le fait dans le roman historique ou comme on le fait dans l'Uchronie, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais Eric a évoqué. Mais la machine à explorer le temps en tant qu'autant, c'est peut-être précisément le cerveau, et le cerveau qui lit de la fiction ou qui fait de la théorie scientifique ou philosophique et qui essaye d'envisager différentes façons d'aborder le temps.
Voilà. Moi, je peux te dire, quand mon cerveau a compris qu'il n'y avait pas besoin de machine pour voyager dans le temps, on a tous été assez fans de la DeLorean de Voyage dans le futur, je pense, et aussi de la machine de Wells dans le film. C'est une super machine. Et puis, quand j'étais adolescent, je joue à un jeu qui s'appelle Day of the Tentacle. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et là, la machine à voyager dans le temps, c'est les toilettes. Et on met des trucs dans les toilettes, on tire la chasse et pff, ça va dans le futur. Donc là, c'est là que j'ai compris que peut-être il n'y avait pas vraiment besoin de machine.
Ou Doctor Who, c'est son...
Oui, ouais, c'est sa cabine téléphonique.
C'est sa cabine téléphonique.
Les toilettes, bon, c'est alors... mieux, je trouve.
Bon, alors, peut-être dans le public, des remarques, des questions ?
Merci. Moi, j'ai une question pour nos deux physiciens. J'aimerais savoir, à la lumière de la physique actuelle, des connaissances donc, qu'on a, si en dehors des paradoxes, je dis bien en dehors des paradoxes, il y a des arguments physiques pour s'opposer à la possibilité d'un voyage dans le passé.
On peut prendre une autre question. Pendant l'autre question, je réfléchis.
Non, en un sens, j'ai essayé de répondre à ça tout à l'heure. La physique, la science moderne, n'a rien à dire sur le temps, effectivement. Donc, en dehors des paradoxes, et en particulier des paradoxes de causalité, qui sont l'argument qui convainc à peu près la totalité des physiciens que ça serait vain de chercher à voyager dans le passé, le problème de causalité, c'est que si vous avez une relation de cause à effet entre deux événements, on a un problème si l'effet précède la cause. Donc on s'interdit de cette situation-là. L'hypothèse de base de la relativité, dont je disais tout à l'heure qu'elle marche parfaitement, c'est le principe de causalité. C'est-à-dire, si vous enlevez le principe de causalité, on n'a plus besoin de théorie de la relativité. Donc la quasi-totalité des paradoxes étant basée sur le principe de causalité, effectivement, à part les paradoxes, on n'a pas d'argument. Mais c'est un argument massu.
Il y a un tout petit truc, mais qui ne va pas très loin, c'est que dans la plupart des équations de la physique, le temps peut passer dans un sens ou dans l'autre, et ce n'est pas grave. Il y a une petite exception en physique des particules, il y a une très légère violation, on appelle ça comme ça, du passage du temps. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui va un petit peu plus vite quand il va dans un sens que quand il va dans l'autre. Malheureusement, c'est vraiment à l'échelle microscopique et ça a très peu de chances d'être capable de générer un sens macroscopique, si tu veux, du passage du temps pour tout le monde, c'est-à-dire un truc qui voudrait dire que le temps doit passer pour tout le monde. Mais il y a quand même un tout petit indice qu'au moins quelque part dans une équation de la physique, en fait il y en a même d'autres à l'échelle plus macroscopique, mais à l'échelle très microscopique, il y a un truc qui fait que le temps passe plutôt dans un sens que dans l'autre.
Michel, oui.
Je dirais qu'en ce moment, vous venez de voyager dans une très belle heure de temps avec nous.
Voyage très long.
Moi, j'en profite quand je suis entouré de physiciens. Est-ce que ça voudrait dire que la physique moderne valide l'idée d'une rétrocausalité ? Est-ce que, à propos du temps, une cause, un effet, mais si l'équation est réversible, est-ce qu'une... Ce qui aurait été l'effet d'une cause dans le passé pourrait être une cause dans le futur.
On sait inverser beaucoup de choses. On sait effectivement faire reconverger une onde qui a divergé. On sait, si on connaît dans le détail un processus physique, en général, on est capable de l'inverser. Donc on peut effectivement partir de... En général, ce qu'on entend par l'évolution du temps, c'est on part d'un objet simple, on va vers un objet compliqué. Par exemple, on a une bombe qui va exploser. Avant, le moment initial, c'est la bombe non explosée. Le moment final, c'est des éclats un peu partout. Si on connaît exactement la position et la vitesse de chaque éclat, on pourrait reconstituer une situation où, partant d'un très grand nombre d'éclats, on reconstruit la bombe, on reconstruit un vase. En l'occurrence, ce n'est pas qu'on a inversé le signe du temps, c'est qu'on a triché en utilisant toute l'information disponible sur la situation d'arrivée pour préméditer la reconstruction d'un vase.
On a simplement fait que repasser le film à l'envers, en fait.
Non, on peut effectivement envoyer des éclats de la bonne façon, de façon à ce qu'ils se recombinent comme il faut et décasser un vase.
Si on arrive vraiment à reproduire l'état final comme état initial peut devenir l'état final. Cela dit, les lois de la physique ne prétendent pas tout prédire tout le temps, et ce n'est pas parce qu'on a des lois qui semblent aller dans un sens comme dans l'autre, question du temps, ça ne nous empêche pas d'avoir un axiome qui dit le temps il passe que dans un sens. Mais c'est un axiome, c'est quelque chose qu'on rajoute, quoi, quelque sorte, qui est en plus des équations pour dire n'oubliez pas les gars que le temps ne va que dans un sens. Mais ce n'est pas contenu dans l'équation elle-même.
Je vais même tenter de qualifier ça de préjugé métaphysique.
Je voudrais rebondir sur l'idée que notre cerveau serait la première machine à voyager dans le temps. Parce que est-ce que ce serait le voyage dans le temps, enfin le premier voyage, la première exploration du temps en quelque sorte, ça serait notre mémoire qui nous donne à explorer le passé. Est-ce que ça serait pas aussi notre mémoire qui définirait ce qu'on comprend comme étant le temps?
Si, en un sens, tu as raison. Il y a même un physicien célèbre, Richard Feynman, insistait sur le fait que on n'a absolument aucun moyen physique de mesurer la flèche du temps. Donc on ne sait pas si le temps passe dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on a effectivement, c'est une quantité d'information qui augmente ou qui diminue. C'est ce que tu appelles la mémoire. Je me souviens du passé, je ne me souviens pas du futur. Il y a une dissymétrie, donc ça me permet de définir le passé comme ce dont je me souviens et le futur comme ce dont je ne me souviens pas encore, en quelque sorte. Pour autant, on pourrait tout à fait imaginer que le temps marche du futur vers le passé, savoir que ma mémoire se déconstruise progressivement, que la quantité, que les moments dont je ne me souviens pas augmentent en nombre, et qu'au lieu de construire ma mémoire comme c'est l'interprétation habituelle avec une flèche du temps qui va vers le passé, vers le futur, j'ai une mémoire qui se déconstruise. Il y a eu des romans comme l'extraordinaire aventure de Benjamin Button, de Scott Fitzgerald, qui joue avec ce genre d'idée. Effectivement, on peut tout à fait imaginer que la flèche du temps, qu'on passe notre temps à voyager dans le temps, à inverser la flèche du temps sans s'en apercevoir. L'image de Feynman, c'était qu'il se peut qu'il y ait un seul électron dans l'univers. Parce qu'un électron qui va avec une certaine flèche du temps du passé vers le futur, s'il fait demi-tour, il nous apparaîtra comme un positron. C'est-à-dire la même chose avec un signe positif au lieu d'une charge électrique positive au lieu d'une charge négative. Or, il y a à peu près, dans la plupart des modèles, il y a à peu près autant de positrons dans l'univers que d'électrons. Donc on peut tout à fait imaginer que ce soit le même électron qui passe son temps à partir d'un... nous passer sous le nez dans un sens, repartir dans l'autre sens, et puis zigzaguer. Et en fait, il y aurait un seul électron dans l'univers qu'on voit passer un nombre quasi infini de fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et ça donne tous les électrons et tous les positrons de l'univers. Alors, c'est un jeu intellectuel, mais il n'y a absolument aucun moyen physique d'invalider cette idée-là.
Il y a aussi des gens qui nient l'existence du temps. Du concept de temps. En tout cas, ça, j'ai entendu parler de ça, là, comme on est une succession de moments, mais il n'y a pas de flèche de temps.
C'est un peu toute l'idée de la mécanique quantique. Non pas de nier l'existence du temps, mais la mécanique quantique est une théorie de la mesure et où on s'interdit de parler de ce qu'on ne connaît pas. Donc, on dit, quand on parle de ce qu'on ne connaît pas, on dit vite des bêtises, donc on ne fait pas d'hypothèses sauvages sur des choses qu'on ne connaît pas. Et tout ce qu'on connaît, c'est des résultats de mesure. Donc je sais que j'ai mesuré que tel objet était à tel endroit à tel moment, je peux dire qu'il était à tel endroit à tel moment. L'instant d'avant, je ne sais pas, l'instant d'après, je ne sais pas. Et on ne décrit, et c'est un travail mathématique considérable, c'est une mécanique de précision intellectuelle, on arrive effectivement à décrire à peu près complètement l'univers en ne s'appuyant que sur des résultats de mesure. Mais dire qu'on s'appuie sur des résultats de mesure, c'est dire qu'à aucun moment on ne parle de temps. Donc on arrive à décrire l'univers... simplement avec si on mesure des énergies par exemple, on s'interdit de mesurer des durées. Si on mesure des positions, on s'interdit de mesurer des... mais c'est un discours sur le monde, c'est une prudence extrême pour décrire le monde. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, on ne sait rien dire sur le temps, donc comme dirait Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il vaut mieux le taire. Mais c'est pas une hypothèse sur le temps lui-même, c'est plutôt une prise de conscience de nos propres limitations et notre incapacité à ne pas dire de bêtises quand on parle du temps.
Alors, juste peut-être pour revenir à la question de la mémoire, alors là, du coup, je proposerais aussi la réponse du point de vue philosophique. La théorie de Saint-Augustin dont je parlais, mais dont j'ai rien dit, c'est précisément une théorie du temps qui est définie comme mémoire essentiellement. Le temps n'existe que parce qu'on a une perception de quelque chose qui est du passé, de quelque chose qui est du présent et de quelque chose qui est du futur. Et vous avez aussi Bergson hein, qui attache de façon très étroite l'idée de temps à celle de mémoire. Et dernière chose, qui, bon, j'en dis pas plus, on n'a pas le temps, mais justement, mais il y a aussi quelque chose qui a été très brièvement abordé dans ces thématiques. Il y a la question du rêve. Il y a la question de l'inconscient et de la, et la question du rêve. Et chez Freud, l'inconscient, c'est en fait aussi une machine à voyager dans le temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais pour l'inconscient, il n'y a pas de temps, et, dit Freud. Et effectivement, moi, j'ai déjà eu l'occasion de rêver. Et parfois, on se rêve dans le passé et on pense effectivement être dans ce passé, et on a des souvenirs des personnes ou des émotions qu'on pouvait avoir parfois dans un temps très très lointain, comme si c'était même pas hier mais aujourd'hui. Voilà, donc il y a des choses intéressantes et dont certains, disons, certaines personnes utilisent ces expériences subjectives de la perception temporelle pour après développer des théories du temps plus ou moins en lien avec des théories physiques pour réfléchir à cette notion du temps qui reste une notion insaisissable sur le plan philosophique. Bon, je crois malheureusement qu'il est... Oui, voilà, il est 18h34.
Le temps nous est compté.
Le temps, hein, toujours le temps. Moi, je pense que le jeune Saint-Augustin peut aller dans sa machine à voyager dans le temps et écrire la théorie que Sylvie vient de lui révéler.
Mais oui, voilà, c'est ça. Alors juste, puisque je l'ai annoncé au début, et je citerai juste les titres, moi, il y a deux œuvres donc, que j'ai vues récemment et que j'ai trouvées vraiment intéressantes. C'est Primer, qui est un film alors assez difficile à regarder, assez indigeste, mais assez bluffant. Et sinon, il y a une série anglaise beaucoup plus légère, mais que j'ai trouvée passionnante en termes de renouvellement, enfin, petite astuce sur la façon d'envisager le voyage dans le temps. C'est la série qui s'appelle Misfits, et qui, c'est pas du tout le propos principal, mais dans cette série, il y a une histoire qui mélange amour et voyage dans le temps que j'ai trouvée vraiment astucieuse. Voilà, bon, bah merci à tous.
Merci Sylvie.
Aux participants de la table ronde. Merci au public qui a été courageux et qui est resté jusqu'à maintenant. Et bonne continuation.